François Burban et je viens avec Anne Josso. On est tous les deux, tous les deux partis du CREM, du Centre de recherche en éducation de Nantes. Et ce travail qui a été mené sur l'année universitaire dernière, ou l'année scolaire, comme vous voulez, se faisait en parallèle avec nos propres travaux, puisque Anne est en train de terminer sa thèse sur d'autres objets. Et moi-même, je venais juste de soutenir ma thèse à ce moment-là. Donc voilà, j'étais inter à ce moment-là. Et donc, c'est un travail qu'on nous a demandé, c'est un travail qu'on nous a proposé de faire, donc en épicentre, enfin en parallèle de nos préoccupations de recherche du moment. Donc je te laisse la parole.
D'accord. Donc l'objet de notre présentation aujourd'hui est de nous interroger sur la recherche de sociologie en sciences de l'éducation, en sociologie de l'éducation, et sur ses apports comme espace de médiation entre l'Académie de Nantes d'une part et le Collège expérimental Anne Frank d'autre part. Donc pour aujourd'hui, on va suivre le plan suivant. Donc on va d'abord se demander pourquoi une recherche en sciences de l'éducation, pourquoi la recherche a-t-elle été nécessaire. Deuxièmement, la méthodologie de la recherche et les aléas du terrain. Troisièmement, le terrain du Collège Anne Frank, les axes de réflexion et enfin une conclusion avec des perspectives. Donc premier point, pourquoi la recherche a-t-elle été nécessaire? Donc on a d'une part un point de vue institutionnel. On a la loi d'orientation de 2005 dans le cadre de l'article 34 des structures expérimentales qui dépendaient du ministère de l'Éducation nationale doivent préciser leur contribution à la diversification de l'offre académique en proposant un projet éducatif réactualisé. Donc il y a une insertion des structures expérimentales dans le paysage académique et une nécessité de contractualisation. Je vais faire ce petit. Alors, donc ce contrat porte sur quatre points. Un état des lieux et diagnostic. Donc au Collège Anne Frank, un état des lieux a été contesté par l'équipe du collège, car supposé orienté, il avait été fait par un IPR et un principal. Deuxième point du contrat d'expérimentation, donc des objectifs en lien avec le projet annuel de performance académique. Et troisième point, les actions à mener en fonction des objectifs. Et enfin, les modalités d'action. Donc c'est là qu'intervient la demande de la NVIP, qui impulse la recherche en sciences de l'éducation en se rapprochant du CREN afin de créer un espace de dialogue entre les services académiques et le Collège Anne Frank d'autre part. Donc, du point de vue de l'équipe enseignante, il y a une demande d'un regard neutre pour établir un état des lieux. Alors il y a certainement une méfiance vis-à-vis de l'institution scolaire et semble-t-il un refus d'entendre certaines choses. Donc il y a une difficulté aussi à rendre explicites, les implicites liés à la structure. Institutions et enseignants expérimentateurs ne construisent pas le problème de la même manière. Donc on a d'une part, du côté institutionnel, le terme de projet revêt plutôt un ensemble de priorités, des financements et introduit la notion de performance et d'évaluation, tandis que pour les enseignants expérimentateurs, le projet est tourné vers une mobilisation vers les élèves, vers un travail collectif, et il se décline en fonction des interprétations possibles. Donc il se situe plutôt dans une structuration d'individu à individu. Donc le problème n'est pas construit de la même façon, tant du point de vue de l'institution scolaire que de l'équipe enseignante, et il y a une difficulté à dialoguer autour des mêmes termes. Donc la recherche, un espace de dialogue souhaité, donc nous, nous avons rencontré donc au cours de réunion des inspecteurs et puis des principaux qui avaient été visités le collège Anne Frank. Nous avons aussi rencontré, bien sûr, au cours de trois visites, le collège personnel enseignant et les élèves du collège Anne-Franck. Et nous avons gardé nos distances, notre neutralité, tant au niveau des réunions que de nos visites. Donc, est-ce que notre rapport de recherche a permis de trouver une médiation et a été un dialogue, un espace de dialogue? Donc c'est la question.
Je peux juste entendre une question. Je m'excuse, je suis en train de penser à ce qu'a dit Martine tout à l'heure. Ça n'a rien à voir, c'est sur l'organisation. Est-ce qu'avant de rentrer dans la salle, la question de savoir qui serait s'occuperait des questions, vous savez, les deux personnes qui sont censées rapporter, est-ce qu'elle a été résolue? Qui est censé...
Chez le subjectif.
Subjectif. Mmh. Mais je suis en train de me demander si l'autre personne...
Non, Madame Desboissons n'est pas avec nous.
Ouais. Est-ce que, donc, avant qu'on aille plus loin, qui accepterait de charger ce travail?
C'est pour les questions sans réponse, hein, c'est ça?
Mmh.
Oui, je viens me charger.
Okay, d'accord, excusez-moi, c'est un petit intermède.
Une deuxième grande partie, la méthodologie de la recherche et les aléas du terrain. Donc la méthodologie de la recherche, comment ? La méthodologie de la recherche, notre recherche par le dispositif que nous avons mis en place est une recherche de type ethnographique, sans hypothèse. Non, c'est fini parce qu'il y a pas de règlement. Tant pis. Donc c'est une recherche de type inductive, sans hypothèse forte de départ, mais quand on est allé au collège Anne-Franck, on s'est posé la question, que se passe-t-il ici? Donc la situation est avant tout, l'analyse est avant tout ethnographique et qualitative. Pour nous, il ne s'agissait absolument pas d'avoir raison sur les acteurs, mais de comprendre leur raison ici et maintenant. C'est une photographie à un instant T. Il ne s'agit pas d'une critique des actes ou des valeurs mises à jour par la recherche et elle ne vise pas à fournir des données statistiques, ne peut prétendre répondre aux questionnements d'ordre strictement pédagogique et a fortiori didactique. Donc pour notre étude, nous avons mis en place un dispositif de recherche autour, qui s'articule autour des points que vous avez sur PowerPoint. Donc le premier point, c'est une observation non participante avec des observations de cours, notamment dans les classes. Hein, on a suivi deux cours hein, complètement différents, un cours de français et un cours d'espagnol. Le deuxième point, c'est tout ce qui est conversation informelle avec les enseignants, en salle des professeurs ou aussi au cours de déjeuner. Alors c'est très important ces conversations en ethnologie puisque ces conversations permettent d'obtenir énormément d'informations et créent un sentiment de confiance et d'empathie vis-à-vis des interviewés potentiels. Troisième point de notre dispositif, donc des entretiens de type compréhensif auprès des groupes d'acteurs du collège, que ce soit les enseignants ou les élèves. Donc ces entretiens n'étaient pas du tout directifs, nous n'avions aucune question prête à l'avance. Donc il s'agissait de recueillir des points de vue différents pour les mettre en perspective. Quatrième point, un questionnaire auprès des parents du collège Anne-Franck afin de cerner leur motivation à inscrire leur enfant au collège. Cinquième point, une lecture de documents officiels et une consultation régulière du site internet du collège. Tout ce dispositif de recherche a été complémentaire et nous a permis de mettre en perspective certains points. Alors, conditions de la recherche. Donc, nous avons passé entre janvier 2008 et mai 2008 trois journées au collège Anne-Franck. Notre interlocuteur privilégié a été le professeur coordonnateur du collège et nous pouvons faire quelques remarques. Donc si on a choisi complètement notre dispositif de recherche, les personnes interviewées nous ont été désignées par le coordonnateur du collège. Donc ils nous ont été désignés parce qu'ils étaient disponibles les jours où nous sommes allés au collège mais nous avons supposé qu'ils nous avaient été désignés parce qu'ils étaient bien intégrés à la structure expérimentale. Et puis, du coup, ils avaient une position bienveillante.
Oui. La notion de coordonnateur du collège.
Oui, c'est quoi?
Alors, bon, en fait, pour moi, c'est nouveau. Donc,
D'accord, parce que c'est une structure expérimentale. Donc, en fait, on va voir tout à l'heure que le collège est sur un territoire particulier. Donc, en fait, il partage son territoire avec un autre collège. Le principal de ce collège est le principal des deux collèges, mais il y a un enseignant qui est coordonnateur pour l'équipe du collège Anne-Franck. Puisqu'il y a eu un moment un principal, mais qui est parti, qui n'a pas souhaité...
Donc c'est une forme de principal adjoint, quoi.
C'est
plus compliqué
que ça.
Oui,
c'est compliqué,
oui,
ça, c'est un territoire dans un territoire,
oui, on
un
va
territoire
voir tout
qui
à
juste à plus un territoire.
Donc finalement, ces personnes interviewées, bon, elles étaient bienveillantes vis-à-vis de la structure expérimentale. Alors, une étude plus longue nous aurait permis de rencontrer l'ensemble de la communauté enseignante. Nous avons interviewé 7 élèves âgés de 12 à 17 ans, au parcours scolaire et personnel très différents. Donc la seconde remarque, ce sont les questionnaires parents. Donc nous avions distribué aux professeurs coordonnateurs de l'équipe une centaine d'exemplaires. Nous avons eu un retour de 8 questionnaires, puisqu'il a oublié de distribuer les questionnaires. Donc fin juin, dans la précipitation, il a envoyé les questionnaires, mais simplement on n'a eu que 8 questionnaires de retour, donc finalement c'était complètement inexploitable. Alors, donc on va voir.
Si, c'est une forme d'exploitation.
Si, c'est là qu'on va reprendre.
Alors, là justement, vous avez le terrain du collège Anne-Franck, troisième partie. Donc à gauche, vous avez le collège de Ronceret, et à droite, vous avez les préfabriqués, le collège Anne-Franck. Alors, on a une photo, on aura un petit peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est ce qui symbolise le collège Anne-Franck depuis 2001. Donc les préfabriqués sont symboliquement référence à un chantier, à l'éphémère. Et on va voir qu'il y a quand même des problèmes au niveau du partage du territoire entre les deux structures qui ont des fonctionnements complètement différents.
Ça, juste, c'est ce qu'on a vu lors de notre première visite. La première chose qu'on voit en arrivant, c'est ça, avec ce fameux poteau qu'on voit par ici, n'est pas lisible sur la gauche, un espèce de panneau de direction avec une flèche de Ronceret et une flèche de l'autre côté qui indique ces AGECO là, sur la droite. Voilà, qui situe en gros déjà l'ambiguïté qu'il va y avoir sur ce territoire.
Voilà. L'opposition. Donc sur un même territoire. Je suis un peu perdue parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc il y a deux collèges. Hein. Donc, sur un même territoire, on a deux collèges avec des fonctionnements vraiment très différents. Certaines normes implicites règlent la vie d'un établissement scolaire, alors comme le silence, la circulation dans les couloirs, l'entrée en classe, l'interdiction d'entrer en salle des profs, le rythme scolaire, l'évaluation. Et les deux établissements scolaires ne partagent pas du tout les mêmes normes. Donc on a d'un côté le collège Le Ronceret qui est une structure entre guillemets plus traditionnelle, et de l'autre on a le collège Anne-Franck qui veut casser justement certaines de ces normes, hein, comme l'interdiction d'entrer en salle des professeurs. Et en collège Anne-Franck, les élèves rentrent autant qu'ils veulent dans la salle des professeurs. Le rythme scolaire n'est pas du tout le même, puisque l'organisation du cursus ne se fait pas par classe. Ça va de la 6e à la 3e, et il y a des cours au choix, donc les élèves choisissent dans quel cours ils veulent aller. Un élève du 6e peut aller en anglais avec un niveau 3e. Donc les enseignants n'ont pas le sentiment d'appartenir à la même communauté. Les enseignants du Ronceret et du collège Anne-Franck n'ont pas le sentiment d'appartenir à la même communauté. Et j'ai une citation d'un enseignant du collège Anne-Franck, dont on a vraiment le sentiment que ce sont deux mondes vraiment différents. Même si on peut éprouver de la sympathie les uns les autres, Il y a plein de profs sympas au collège Ronceret, mais sur les questions professionnelles, on n'arrive pas à se rejoindre du tout. C'est étrange. Et cette inscription dans un même territoire avec des fonctionnements très différents génère des tensions entre les deux collèges. Donc ces difficultés de coexistence, oui.
Les services des enseignants sont complets ou non au collège Anne-Franck? Est-ce qu'ils ont des services complets ou partagés avec d'autres établissements?
Non, c'est non. Complet. D'accord. Et ils font plus que 18 heures.
D'accord.
Donc ces difficultés de coexistence et de partage de territoire sont soulignées par l'ensemble de la communauté scolaire du collège Anne-Franck, que ce soit les élèves ou que ce soit les enseignants. Alors en effet, au titre des problèmes que soulèvent les élèves dans leur scolarité à Anne-Franck, les problèmes de locaux ainsi que les problèmes relationnels avec le collège Le Ronceret reviennent à plusieurs reprises. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. Durban.
Bon, donc moi j'ai choisi à chaque fois de vous présenter quelques petits titres éventuellement pour éclairer et surtout des citations, et moi je parlerai à partir de ces citations. Bon, je vais avoir deux parties, donc la partie approche des analyses à partir de ce qui a été fait dans les entretiens avec les enseignants, et ensuite j'aborderai le côté élève. Alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le parcours des enseignants rencontrés sont relativement différents. Donc, cependant, sur les questions portant sur l'entrée dans le métier, le plus grand nombre de ces enseignants a répondu avoir commencé sa carrière comme remplaçant ou maître auxiliaire. Pour les plus anciens, ou comme contractuel, pour les plus jeunes. C'est donc par la pratique en classe que les enseignants ont débuté. L'un des enseignants se souvient de cette expérience, donc c'est ce que l'on voit ici. A priori, l'expérience n'est pas forcément très positive. On a le cas aussi de deux enseignants qui ont travaillé donc, dans des classes d'adaptation et en SECPA. Lorsqu'ils avaient cette expérience, ces enseignants parlent à la fois de leur engagement par rapport aux élèves en difficulté et de leur pratique en termes de projets, d'initiatives avec des collègues. Cette expérience les a amenés à être à l'écoute et à donner du sens à leur engagement dans un enseignement face à des publics en difficulté. On voit déjà des orientations qui vont se décider donc, par rapport à leur choix ou à leur position dans cet établissement. Donc ça rejoint ce qui a été dit précédemment. Ils ont un regard assez critique, et ça rejoint aussi ce que nous a dit Anne tout à l'heure sur la position ambiguë et conflictuelle entre le collège Le Ronceret et Anne-Franck, c'est qu'ils ont un regard très critique donc, sur ce qu'ils appellent le monde enseignant traditionnel. D'accord ? Donc il s'agit pour ces personnes de finalement trouver leur place à la fois dans un projet éducatif et à la fois dans la construction d'une carrière. Donc pour eux, la demande de reconnaissance est importante, surtout de la part des contractuels, parce qu'ils ressentent une hiérarchisation horizontale forte au sein de la profession. Ce sentiment d'exclusion est renforcé par une rémunération plus faible, une forte mobilité qui ne leur a pas permis de participer à des projets et de s'intégrer à une équipe. Donc il faut rajouter aussi la forte mobilité qui crée également un sentiment d'instabilité et sans aucun doute le sentiment de ne pas être reconnu professionnellement. Donc ici, donc, il y a une espèce de polarité, vous voyez, qui se présente. Il y a une espèce d'opposition entre les expériences antérieures et c'est la façon dont ils perçoivent leur travail dans le collège Anne-Franck. Alors ça signifie quoi pour ces gens expérimentés? Donc pour tous les enseignants qui ont été rencontrés, la possibilité d'être créatif et indépendant est une source de motivation importante dans leur expérience dans ce collège Anne-Franck. Celui-ci est considéré comme un espace dans lequel ils peuvent développer une autonomie professionnelle et qui peut se décliner par un contenu pédagogique où s'exprime une forme rechercher de liberté pédagogique. Cette inventivité, cette autonomie revêt un sens différent sur l'expérience professionnelle des enseignants rencontrés. Si elle est d'ordre pédagogique pour les plus anciens, elle est avant tout d'ordre relationnel, et on va voir ça tout au long de la suite, elle est d'ordre relationnel pour les plus jeunes. Bon, en gros, on rejoint là ce qui a été dit, ce qui est assez classique finalement sur l'entrée dans la profession des enseignants, notamment je pense aux travaux de Rayou et Van Zanten. Donc on va dire que c'est d'abord à la prise de conscience de l'importance de la dimension relationnelle dans la sphère scolaire, plus qu'à la difficulté à faire progresser tous les élèves que se trouvent confrontés les enseignants de vie de carrière. Il y a finalement quelque chose d'assez classique. Donc, c'est la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir maîtriser finalement la construction du projet, la construction de sa propre carrière qui est mise en avant. Donc l'inventivité, la liberté d'action se situe dans les espaces interrelationnels et privilégiés qui leur permettent d'exprimer leur juste distance avec leurs élèves sans crainte du regard des autres enseignants. Recherche d'autonomie, donc d'indépendance, acquisition de la maîtrise de la construction de leur propre parcours professionnel. Alors, quelle est leur conception par rapport à la dimension éducative? Donc, tous les enseignants que nous avons rencontrés insistent plus sur la dimension éducative du métier que sur la dimension transmissive. C'est quelque part le sens commun partagé par les enseignants rencontrés. C'est ce qui, dans l'espace d'Anne Frank, donc, est une ligne directrice minimum des différentes actions des acteurs. Alors, donc, on peut voir que les cours auxquels nous avons assisté relevaient d'une forme relativement classique dans les collèges, puisqu'il s'agissait de cours dialogués. Les enseignants se proposent surtout de transformer de manière positive les rapports entre l'élève et leur scolarité. Donc, je suis désolé pour la taille de la citation qui est mise. On est un peu pris par le temps, mais on va le retrouver dans les exemples qui suivent. On a une espèce de synthèse, finalement, dans cette grosse citation de la caractérisation donc, du type d'élève et du point des conditions de travail. J'y reviendrai donc, dans les suites. Alors, ce qui est mis aussi en avant, c'est l'idée que ce qu'ils ont mis en place est un système collégial. Donc, tout ce travail de remise en confiance, de médiation des conflits entre les élèves ou entre élèves et enseignants demande un temps réel et prend le pas sur l'institution d'un véritable temps de travail autour de la réflexion pédagogique. Donc, on va s'apercevoir très rapidement, nous, dans nos observations, que finalement, c'est peut-être un phénomène très classique, ils sont noyés ils ne s'y retrouvent pas. Ils ont des problèmes de difficulté, de gestion du temps, d'organisation du collectif, autour de ces valeurs dont on vient de parler, et puis de valeurs beaucoup plus générales, et des objectifs qu'ils se donnent, qu'ils souhaitent se donner, une aspiration à travailler dans quelque chose d'expérimental, d'innovant, d'autre, mais nous, d'entrée de jeu, enfin, dès les premières rencontres qu'on va avoir, on va avoir des questionnements qui vont porter sur qu'est-ce qui existe vraiment en termes de mise en forme du projet et donc quels sont les outils qui sont mis en œuvre pour le réaliser. Est-ce qu'il y a vraiment une structuration? On parlait tout à l'heure, vous avez parlé de la question du temps. Tous vont nous dire qu'ils passent effectivement 25-30 heures sur l'établissement. Après, nous, la question, c'est de dire mais comment gérer ce temps? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a un projet derrière? Est-ce qu'il y a des outils? Voilà.
Et le coordonnateur n'a pas de rôle au niveau de l'animation d'équipe, de la gestion d'un projet commun?
Le problème du discours, le discours performatif, on pourrait dire, il y a un discours, il y a une personne, on est censé avoir une organisation, on est censé avoir... Alors vous voyez bien, quand je dis on est censé, vous voyez bien vers quoi on va. C'est-à-dire que plus on avance dans nos observations et dans les entretiens qu'on va mener, plus on va s'apercevoir qu'il y a une forme un peu floue d'organigramme, d'organisation, mais que finalement, les moyens ne sont pas vraiment mis en œuvre, et si les moyens ne sont pas mis en œuvre, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas véritablement posées.
Acté.
Ouais, voilà, exactement. Donc du point de vue des élèves, bon, ce qu'on va dire, c'est que la première caractéristique, et là ça tranche éventuellement avec le discours aussi qu'on aurait pu entendre par ailleurs, donc, c'est que globalement, la grande majorité des élèves qui sont là sont en situation d'échec ou de résultats très faibles, voire des échecs très importants qui pourraient les amener vers une déscolarisation. Donc, le système étant ce qu'il est, donc ces élèves à la fin à l'entrée en collège ne peuvent pas forcément aller dans un système classique, traditionnel, et donc il va y avoir tout un jeu qui va se mettre en place qui va les orienter vers ce type de fonctionnement. Bon, alors, on a donc le caractéristique, c'est en gros les retards scolaires, mais aussi des problèmes psychologiques, sociaux, etc., qui vont en général se cumuler. Il va y avoir une interaction de ces différents paramètres. Alors, je ne sais plus si c'était dans la diapo d'avant ou dans celle-là. Oui, voilà. Notamment, on va avoir des cas de phobie scolaire, des cas de dyslexie, beaucoup de choses de ce type-là. Alors que dans le discours, je tiens à préciser, dans le discours, on nous dit toujours que cette structure expérimentale est ouverte à tous, et qu'elle s'adresse à tous les élèves, quel que soit leur niveau. Alors, peut-être que c'est un petit peu le biais dont a parlé Anne tout à l'heure, dans la façon dont on a pu, c'est-à-dire qu'on a pu, les moyens qu'on nous a donnés pour réaliser ça, on nous a donné aussi indirectement certains élèves à voir, on nous a proposé certaines personnes. Donc, par exemple, on va avoir un ou deux cas, c'est moi qui ai fait ces entretiens avec les élèves, je vais avoir un ou deux cas, effectivement, qui tranchent complètement avec ça. On va avoir des enfants dont on pourrait dire qu'ils sont presque en avance, des élèves très éveillés, avec des bons niveaux scolaires et tout. Ça se voyait dans le comportement, dans la façon de parler, il y avait un ensemble de choses qui se cumulaient. Donc la question qui se posait après, c'est, en gros, qu'est-ce qu'ils faisaient là enfin, qu'est-ce qui faisait que ces gens arrivaient là? Donc il y a un mélange.
Est-ce que le collège leur apporte quelque chose?
Alors il y a l'idée que ce collège-là va leur apporter quelque chose. Il y a certainement une histoire de réseau et de conception par rapport à une approche pédagogique qui peut attirer certaines familles. Dans le discours qui est porté autour de ce qui est produit.
Surtout qu'il est désectorisé. Il est particulier de par son l'intégration d'élèves qui ne sont pas du secteur, d'autant qu'ils sont deux collègues sur le même secteur.
Exactement. Et là on va avoir ces élèves qui, normalement, ne devraient pas forcément être là, mais on va voir que dans leur parcours antérieur, ce sont des gens qui ont du mal à s'intégrer, à s'adapter au système traditionnel, au système traditionnel d'enseignement. Et donc, ce qui va attirer globalement, c'est ce que Nathalie nous a dit, ce qui va attirer les gens ici, ça va être les modalités telles qu'elles sont en tout cas dites ou perçues par les gens, les modalités d'enseignement, de rapport éducatif, et notamment le suivi individualisé. Des choses assez générales qu'on entend un peu partout, le travail d'entraide entre les élèves, il y a un ensemble de considérations comme ça qui sont dans l'air, on va dire, et qui vont attirer un certain type de public. Donc je voulais juste dire que ça reste quand même, pour nous, sur ce qu'on a vu, ça reste marginal. Ce qui m'étonne plus moi, mais c'est un aparté, c'est l'une des questions qui se posait, c'est pourquoi ces gens-là restent là, au vu de ce qu'on va découvrir après, c'est-à-dire d'un certain nombre de dysfonctionnements dans le système. Est-ce que ces dysfonctionnements sont visibles?
Vous dites les gens, les élèves ou...
Les élèves et les familles qu'il peut y avoir derrière. Qu'est-ce qui fait que ces gens vont rester pendant 4 ans sur un établissement qui ne répond pas, a priori, on peut se poser la question, qui n'est pas censé complètement répondre au cahier des charges, entre guillemets, enfin aux aspirations de ces élèves ou de ces familles? Voilà. Alors, ce qui est dit par les élèves sur les relations entre enseignants et élèves. Alors, on va retrouver donc des formes liées à ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que c'est beaucoup lié à l'aspect relationnel et à l'aspect affectif. Donc les relations qui s'instaurent avec les enseignants sont dans l'ensemble bien acceptées et jugées positives. Lorsque la question est posée, les élèves situent leur réponse donc dans le registre affectif. L'appréciation des enseignants ne se fait pas dans un premier temps sur le travail demandé ou sur son évaluation, mais sur le comportement de l'enseignant. Voilà, donc vous voyez bien, ils sont gentils, ils partagent des choses, le midi ils sont avec nous, ils nous appellent pas. On les appelle par leur prénom, leur surnom, on joue au foot avec eux, enfin, on a pas mal d'exemples comme ça, c'est ce qui est mis en avant. Donc ici, ce mode de relation est basé sur la confiance et la sécurité de l'élève. Donc il est donc apprécié positivement parce qu'il rentre quelque part en contradiction, en rupture avec les barrières traditionnelles de statut, telles qu'ils sont perçues en tout cas, donc entre l'enseignant et l'élève. Donc le système d'entraide entre les élèves est apprécié, et le rôle de l'enseignant est perçu comme un suivi individualisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui instaure la prise en compte de la singularité de l'élève et ses difficultés d'apprentissage. Difficultés d'apprentissage, ou pour ceux qui disent en avance, singularité, enfin leur particularité, le fait qu'ils ont à apprendre autrement ou qu'ils cherchent un autre mode, d'apprentissage. Alors ce qui est mis en avant aussi, je ne l'ai pas mis sur l'écran je crois, à moins que ce soit derrière, je crois pas. Ouais, les profs sont plus derrière nous pour nous expliquer, ils ne nous laissent pas tomber. Donc c'est ce qui est mis en avant aussi, ce sont les effectifs réduits par classe qui sont appréciés. C'est peut-être aussi une des raisons qui explique cette part marginale du public dont je parlais tout à l'heure et qui se trouve quand même ici. Donc on a des gens qui nous disent par exemple, je trouve ça bien qu'on soit moins d'élèves, les profs ils peuvent mieux nous suivre. Le premier point positif c'est la taille des classes qui fait qu'on peut être mieux suivi individuellement. Donc ça ressort dans tous les entretiens. Alors, on a dit que c'était positif. Maintenant, donc, le rapport à l'autorité donc, et les aspects conflictuels qui en résultent parfois relèvent de l'ambiguïté des relations affectives précédemment citées. Donc. Celui-ci, l'enseignant n'est pas perçu comme le représentant d'une institution ou le simple passeur d'un savoir, mais comme un médiateur de la relation qu'il entretient avec l'adulte. Donc notamment avec la figure parentale qui pour beaucoup est ambiguë ou déficiente. Donc relation qu'il entretient avec l'adulte, l'institution et plus globalement le monde social. Donc la relation d'autorité est acceptée dans la mesure où elle ne conjugue pas de facto donc sanction ou punition. Elle est acceptée parce qu'elle passe par le dialogue et par la négociation plus que par une démonstration raisonnée, donc plus que par l'autorité. Donc une des personnes me dit par exemple, là ils sont sévères mais c'est pas pareil évidemment que dans un système traditionnel. Par exemple, avant ils te grondaient et ils te punissaient, là ils te grondent, c'est tout. Et encore ils ne te grondent pas vraiment, ils parlent un peu fort. Alors ce qui ressort le plus fréquemment donc, dans les entretiens concernant les points les moins positifs de ce fonctionnement, a trait à l'engagement dans le travail des élèves et à leur coopération dans l'organisation du système d'autonomisation, ainsi qu'au comportement de certains élèves. Donc c'est ce qu'on voit ici. Des fois, on se fait virer, etc. Donc d'un côté, ils sont dans une situation assez compliquée, c'est-à-dire qu'ils viennent là et ils apprécient le fonctionnement parce que les barrières d'autorité sont assez fortement abolies. Et d'un autre côté, ça entraîne des dysfonctionnements et qu'ils regrettent, et finalement certains souhaiteraient un système donc beaucoup plus autoritaire, voire même très autoritaire. C'est très très paradoxal comme conception. Donc ça revient, il y a des choses qui se recoupent. Donc, les relations entre les élèves globalement sont aussi jugées peu positives, parce qu'il y a ce système de tutorat notamment, et il y a ce système dont parlait Anne tout à l'heure, on y reviendra peut-être dans la discussion après, mais ce système qui se fait, un système un peu à la carte sur 4 ans, système de fonctionnement, qui fait qu'ils peuvent côtoyer des gens plus âgés ou moins âgés qu'eux, et ils peuvent évoluer un peu, avec certaines limites, mais ils peuvent évoluer un peu à leur convenance dans ce système. Et donc, c'est ce qu'il a mis beaucoup en avant, c'est encore une fois ce système relationnel. Je reste un petit peu quand même sur ces relations. Ouais, donc la limite du système donc, qui est mis en place ici au Collège Anne-Franck tient au degré de conformation des élèves à l'ordre négocié, puisque tout ça est basé sur un contrat de départ entre l'élève, j'allais dire sa famille, et l'équipe enseignante, le collectif. Pour certains, la marge de manœuvre qui leur est accordée est associée à un degré de liberté non précisément cerné, dont ils cherchent les limites ou dépassements. On dit aussi que certains, et une part importante des élèves qui sont là parce qu'on l'a dit, il y avait des problèmes de comportement. Et donc, il est quelque part conforté dans le système qui est mis en place. Un des élèves me dira que ça, on ne l'a pas su par les enseignants, en tout cas, je n'en ai pas le souvenir, mais qu'ils sont en train de réfléchir à un système de mise en place de sanctions et de punitions au niveau du collectif enseignant. Alors, sur le travail scolaire, il n'y a pas d'obligation de travail personnel des élèves en dehors de l'établissement du temps scolaire, puisque ce qui est considéré comme ce temps et ce lieu de travail, c'est celui du tutorat. Bon, ça n'empêche pas certains élèves, dont on verra qu'ils sont quand même assez marginaux, de fournir un travail complémentaire en dehors de l'établissement, donc, s'ils le souhaitent ou s'ils en ressentent le besoin. Le système du tutorat est censé permettre de placer tous les élèves sur un pied d'égalité par rapport au temps de travail personnel et au contexte de ce travail. Cette dimension est appréciée par certains, qui pour des raisons familiales, entre autres, estiment ou justifient qu'il leur serait impossible d'y souscrire. Donc on a des situations de gens qui sont placés dans des familles d'accueil, où il y a pas mal d'enfants, où il y a le petit frère aussi qui réclame beaucoup d'attention le soir. Enfin bon, on va avoir tous les phénomènes de justification, valables ou non, recevables ou non recevables, qui font qu'on nous dira que oui, effectivement, le travail à l'extérieur n'est pas possible et que le tutorat est le meilleur endroit pour le faire. Donc, cependant, on peut se demander si cela n'entraîne pas un nivellement du groupe, sans doute bénéfique aux élèves les plus en difficulté, mais contre-productif pour les élèves pour accepter une charge de travail plus importante. Il y a un élève notamment qui me dira, mais ça va être le cas à deux ou trois reprises, j'essaie de ne pas faire trop de travail chez moi le soir, parce que le matin, le tutorat c'est fait pour ça, ça dure une heure et demie, et les devoirs, on les fait en un quart d'heure, et après on n'a plus rien à faire. Donc là, c'est lié à ce que disaient les élèves tout à l'heure sur les phénomènes, excusez-moi, entre guillemets, de bordélisation. C'est-à-dire que dès l'entrée le matin, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, pas systématiquement, mais qui va se mettre en place dans la relation entre les élèves et dans les relations entre les élèves et les enseignants, des problèmes de comportement et qui vont empêcher de travailler correctement. Donc niveau d'application très différent selon les élèves, on pourrait dire niveau d'application globalement quand même relativement faible. Alors donc l'organisation du cursus à la carte, on l'a évoqué tout à l'heure, mais donc c'est un système qui est pensé sur les 4 ans, et ils ont des séquences donc qui durent, tu me corrigeras si je dis des choses, ou si je... C'est un système qui est basé sur 5 semaines, avec des codes de couleurs, etc., les élèves décident d'eux-mêmes quels enseignements ils vont pouvoir suivre. La limite, puisqu'on est dans un ordre négocié, la limite étant qu'au bout d'un moment, là on l'a par exemple pour le cas du sport, ça va revenir souvent cet exemple-là évidemment, c'est qu'au bout d'un moment on leur dit bah non, là tu as, entre guillemets, tu as fini, enfin tu as terminé ton potentiel, tu as fini ton quota, il faut que tu passes à autre chose. Donc, un ordre négocié, mais dont les élèves comprennent assez vite qu'il est la marge de manœuvre est finalement relativement réduite, enfin tel que certains le pensent en tout cas comme ça. Donc ce système d'enseignement, donc il offre la possibilité d'organiser temporellement les enseignements sur les 4 ans. Donc il utilise un système de planification par couleur et permet à l'élève de gérer son temps sur 5 semaines. Donc les points positifs de ce système, c'est qu'il permet une certaine latitude à l'élève dans la construction autonome de son parcours. Il y en a un qui me dira « oui, j'essaie de varier un peu les cours, c'est ce que je ne pourrais pas vraiment faire dans un collège traditionnel ». Donc on voit bien l'argument qui est mis en avant. Cependant, le système d'entraide mutuelle entre élèves et l'abolition donc, des classes de niveau entraîne des redites et un désintérêt pour des cours jugés trop répétitifs. Ah oui, sur les 4 ans, ils vont pouvoir reprendre certaines séquences avec d'autres élèves, enfin de différentes façons. Et donc, un des élèves notamment dira, ils nous ressortent tout le temps les mêmes cours. À chaque fois, c'est presque les cours qui se ressemblent beaucoup, quoi. Un autre dira, oui, ça correspond un petit peu à mes attentes, mais c'est des cours super faciles. Alors, le système d'évaluation utilisé, donc c'est un système de capitalisation par points qui est, dans un premier temps, bien apprécié. Donc, l'évaluation de la progression des élèves et l'acquisition des connaissances, donc savoir, savoir-faire, est pensée par cumul de points et non par sanction. Alors, je mets le mot sanction entre guillemets, c'est le mot qui va ressortir parfois. Ce qu'on appelle la sanction ici, c'est la notation sur 20. même minime, le travail ou la simple présence de l'élève entraîne l'acquisition de points comptabilisés sur les 4 années du cursus. Alors là, on entendra des fois des choses assez bizarres. Je crois qu'on l'a dans le deuxième exemple. Ouais, quand on fait les exercices, on a des points. Allez. On nous dira des choses comme ça. Il y a même quelqu'un qui me dira si je prends mon crayon à la main et si je mets une feuille devant moi, j'ai des points. Donc il y a des stratégies de la part des élèves qui se mettent en place pour acquérir un certain nombre de points.
Oui, parce que moi j'ai observé deux points. Donc il y a une enseignante qui, parce que comme les élèves sont quand même assez réfractaires au travail scolaire, donc il y a une enseignante qui a dit si tu fais ce travail, je valide ta compétence.
Alors attendez, je vais rester quand même un petit peu là-dessus. Ouais. Donc ce qui se passe globalement pour terminer sur ce système d'évaluation, c'est que tous diront dans les exemples que finalement ils ne s'y retrouvent pas énormément parce que finalement les enseignants n'ont pas la même façon de percevoir ce système d'évaluation.
Oui. D'accord, il y a pas de référentiel. Ça demande un
référentiel. Voilà, donc on avait compris, on en revient sans arrêt à ça, tout se négocie ponctuellement, et il n'y a pas quelque chose qui est présenté clairement aux élèves, leur permettant d'avoir un point de repère sur ces 4 ans. Et donc, après, évidemment, on se pose la question, on se dit, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Il n'y a pas parce que ce référentiel n'existe pas. Et donc c'est là que ça devient épineux. Il n'y a pas parce que finalement, non, ça n'existe pas, il n'est pas formalisé.
Disons que les enseignants ne sont pas d'accord, puisque pour l'un, ça va être tu fais le travail, je vais te valider. Pour l'autre, ça va peut-être être autre chose.
Donc ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, il y a peut-être autre chose.
Voilà. Et les élèves aussi choisissent leur cours en fonction.
On sait bien, ils ont
ce que comme interdit. Possible.
Ça va leur être utile.
Alors. Donc d'où la question qui se posait. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'installer dans, enfin, est-ce que les élèves ne sont pas en train de s'installer dans un processus de relégation, puisqu'il est basé sur un système de 4 ans, donc le cursus, dans lequel les savoirs sont validés sans ordre de hiérarchie préétablie. Donc, pour la majorité des élèves, ce fonctionnement est un mal en soi. Il faut entériner les 4 années, ce qui indirectement diffère la décision du choix d'orientation et l'appréciation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choix d'orientation des études ou du métier, puisque c'est ce qui va se passer pour un certain nombre d'entre eux, sont mis à distance par la distance qui est mise avec le système d'évaluation classique, j'allais dire le système par palier, où annuellement on va donner un retour, une évaluation, une sanction, enfin, on va donner quelque chose, et on va entériner ce qui a été acquis ou pas acquis par le passage dans la classe supérieure. Là, ce qui se passe, c'est que tout est globalisé sur un système de 4 ans, et que si sanction il doit y avoir, cette sanction n'arrivera qu'au bout des 4 ans.
Par un échec au brevet.
Plus dur sera la chute. Ouais. Et ça, en général, ils s'en rendent compte dans la dernière période, c'est-à-dire dans la dernière année, voire les 6 derniers mois.
C'est celle qui est diplômante, normalement.
Voilà. Donc, d'où la remarque. Est-ce qu'on n'est pas en train de les installer dans un processus de relégation, quoi.
Est-ce que la structure, parce que là, on est sur un... C'est quelque chose de particulier que vous nous présentez quand même. Est-ce qu'on n'est pas sur une structure qui permet de scolariser les élèves qui, dans tous les cas, seraient scolarisés? On est presque sur une unité d'intégration reconnue dans un lieu.
Une sorte de no man's land qui permettrait de maintenir les élèves jusqu'à l'âge normal de
Je l'ai dit dans d'autres termes.
Oui. Ouais. Mmh.
Mais pas no man's land, parce que c'est quand même reconnu. Si nous avons des enseignants payés par l'éducation nationale, c'est pas un no man's land. Hein.
Moi, ça ne me dérange pas que ce soit évalué sur 4 ans et que le verdict tombe à la fin de la 4e année.
Si le
dans les pays nordiques, c'est un peu pareil. Hein.
Ça peut être intéressant s'il y a des...
un référentiel avec une progression.
S'il y a un projet commun, s'il y a des équipes éducatives.
Il y avait un logiciel, tu te rappelles ? Il y avait un logiciel avec des cases et des machins, des bidules. Je vais le dire comme ça, parce que nous, on a vu ça. Pour arriver à comprendre comment ça fonctionne, c'est pratiquement impossible. Et c'est ce qui, là, je ne l'ai pas mis dans les exemples, mais c'est ce dont on va se rendre compte très rapidement, c'est que de toute façon, les élèves ne comprennent rien. S'ils ont compris, c'est qu'il y a des stratégies éventuellement à mettre en place pour arriver à noircir des cases dans ce système d'évaluation, mais ils sont incapables, de savoir. Arriver au bout de 3 ans, par exemple, la plupart me disent je ne sais pas combien j'ai de points, je ne sais pas. C'est dommage, parce que.
Il n'y a pas de retour sur investissement à ce niveau-là.
On voit bien qu'ils sont tous en train de se rendre compte la dernière année, voire les 6 derniers mois, qu'il leur faudrait, je crois que c'est 220 points pour arriver à, et que certains sont rendus à 60 ou 80 points au bout de 3 ans. Et ils n'en ont pas pris conscience avant.
Oui, mais bon, là, il y a un déficit du système qui, normalement, devrait
émettre
des signaux d'alerte, parce que bon, l'idée d'accompagner l'élève, c'est ça.
Alors, bon, je crois que ça va permettre de faire la transition. Je te laisse surface le relais
sur la conclusion. Donc, effectivement, on va rebondir un petit peu, puisque. Je ne sais plus où on est. Voilà, conclusion et perspective. Donc, du point de vue des enseignants, les motivations à participer à l'expérimentation sont très différentes. D'une part, certains enseignants souhaitent s'engager sur des questions professionnelles vives, hein, que sont la réussite, quelle est la réussite de tous les élèves. Très mobilisés, donc ces acteurs sont à l'origine du collège, Anne Frank. Ce sont souvent des militants. Et puis, il y a d'autre part de jeunes enseignants qui sont arrivés dans le collège parce qu'il leur fallait un poste. Ce sont des enseignants contractuels qui vont valoriser vraiment le côté relationnel avec l'élève. Donc l'inventivité, l'autonomie revêt un sens vraiment différent selon l'expérience professionnelle des enseignants rencontrés. Si elle est d'ordre pédagogique pour les militants, pour les piliers du collège, elle est avant tout d'ordre relationnel pour les plus jeunes. Donc le cœur de l'expérimentation au collège Anne Frank est un travail de remise en confiance, une restauration de l'estime de soi des élèves en difficulté. Or, tout ce travail de remise en confiance, de remédiation des conflits entre élèves et enseignants, prend le pas sur un véritable temps de travail sur des questions pédagogiques, sur un travail collectif, sur des questions pédagogiques, comme le souhaiteraient certains enseignants, c'est-à-dire qu'ils sont pris par tous ces conflits sans arrêt, qu'ils sont obligés de gérer tous les jours. Donc, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et ça, ils le regrettent. Du point de vue des élèves, l'organisation du cursus satisfait la majorité des élèves rencontrés. L'affranchissement du système de progression par classe d'âge et de niveau au profit d'un programme d'enseignement à la carte est globalement bien perçu par les élèves. Il en est de même pour le principe d'évaluation par capitalisation. Les élèves apprécient également le fonctionnement collaboratif mis en place et l'entraide mutuelle au cours du tutorat. Les discours sont plus ambigus concernant les finalités scolaires de leur présence au sein de la structure. Le système d'évaluation est souvent mal compris ou abstrait. Sa formalisation dans la durée et le cursus des élèves n'aboutit pas nécessairement à la mise en place d'une gestion autonome et responsable de leur parcours. Donc cette évaluation, comme on l'a dit tout à l'heure, est souvent une source de négociation avec les enseignants, c'est-à-dire qu'ils vont choisir tel ou tel cours, parce qu'ils savent que telle ou telle compétence va être validée par le professeur. De manière ça va être plus facile avec ce professeur-là de l'avoir qu'avec un autre. Alors, conséquence, nous avons conclu notre rapport. Je vais en dire tard là, sur là. Donc, nous avons conclu notre rapport sur le fait que le projet d'établissement gagnerait à être formalisé et à être fortement lisible de l'extérieur, mais lisible aussi à l'intérieur. Cette meilleure lisibilité donnerait un cadre cohérent à l'ensemble de la communauté et éviterait les interprétations trop subjectives sur le sens de l'action et sur sa mise en œuvre. Alors tout à l'heure, on avait posé la question, la recherche comme espace de médiation donc entre l'Académie de Nantes et le Collège Anne Frank. Donc est-ce que ce rapport de recherche, parce qu'on l'a donné donc, d'une part au Collège Anne Frank et d'autre part à la ville de Nantes, donc comment ce projet de recherche, enfin, cette recherche a été perçue ? A-t-elle été un bon médiateur ? Donc la recherche a-t-elle permis une médiation, un moyen de dialoguer autour de termes communs ? Donc là, je vais du point de vue institutionnel, donc nous avons eu un retour de la ville de Nantes qui nous a vraiment dit que notre rapport faisait l'unanimité tant du point de vue de l'inspection que du point de vue du Collège Anne Frank. Et là, je vais vous mettre un extrait de mail. Ah, ça, c'est terminé. Donc, là, c'est quelqu'un qui est assez réfractaire à tout ce qui est institutionnel, donc qui était très méfiant vis-à-vis de nous quand on est arrivé au Collège Anne Frank. et qui a été le premier à lire le rapport. Et il a écrit, donc j'ai lu l'enquête de nos universitaires, c'est la première analyse scientifique sur le collège que je vois, scientifique en ce sens qu'elle définit clairement ses propres contours, ses référents théoriques, son champ d'investigation, et qu'elle fait un travail d'articulation entre les référents théoriques et un corpus de documents dont elle donne tous les détails. Les éclairages donnés sur nos pratiques, nos mobiles, ainsi que ceux des élèves ne sont pas tant surprenants, mais s'ils sont étayés et précisés. Il y a, à mon avis, beaucoup de choses à tirer de ce travail pour orienter nos réflexions, discussions et décisions pédagogiques, ou plus généralement, professionnelles. Donc, on espère que ça va déboucher sur un projet d'établissement. Mais en même temps, notre rapport de recherche, finalement, n'est pas si éloigné que ça, que le rapport d'inspection.
Proposé à une équipe qui a des difficultés avec l'institution de travailler sur une démarche qui est institutionnelle, ça peut être délicat. Ouais. Même si, pour leur bien, ce serait une bonne piste. Mais là, c'est compliqué. Mais on vous a donné un cadeau empoisonné.
Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que finalement, nous, on était complètement néophytes. On ne savait pas où on mettait les pieds. Même s'il y avait, comme le disait tout à l'heure Christine, s'il y avait un contrat qui avait été posé quelque part, on a découvert au jour le jour que la situation était finalement épineuse, voire très épineuse. Et on s'est retrouvé là-dedans en se disant on nous demande d'être qui dans cette histoire.
La notion de médiation, je la comprends mieux maintenant.
Notre travail était d'essayer de voir comment tourner l'enquête elle-même, déjà, comment ce qui a été souligné d'ailleurs par la personne tout de suite, d'un point de vue méthodologique, en gros la légitimité de la recherche, de façon à pouvoir créer cet espace qui allait permettre de renouer le dialogue entre les deux. Et donc il y avait toutes les formulations, les précautions d'usage à prendre, de façon à ce que les gens puissent réinstaurer un dialogue qui était en train de mourir. Mais ça, on l'a compris pratiquement à la fin de notre recherche. On a entendu des choses très dures de part et d'autre. Et finalement, notre travail, s'il a pu avoir un intérêt, a été au moins celui-là, c'est qu'il a permis aux gens d'avoir un espace un peu neutre sur lequel, à partir duquel chacun pouvait puiser des éléments et réentamer une discussion qui était en train de mourir.
Ce que vous présentez, moi j'ai l'impression d'avoir une structure, parce que c'est sans principal. Je suis peut-être trop normé. Sans principal, on est sur une structure, on n'est pas sur un collège. Administrativement, est-ce qu'ils ont RNE? Bon, il y a plein de choses intéressantes. Pourquoi les enseignants sont-ils là? Quel est le public d'enseignants qui est là? Comment se maintient-il là?
Justement, par rapport au public enseignant, donc on a vraiment des enseignants qui sont là depuis le début du projet. Et puis il y a eu des conflits entre les différents enseignants.
Mais la notion de projet, c'était quoi? C'est la notion de projet qui est historique. Ça veut dire quoi?
Ça a débuté en 1999. Donc il y a eu un manifeste de Marie-Danielle Pierlet en 1999, donc avec des points. Et il y a eu une pétition qui a circulé. Et là, des enseignants ont commencé à se regrouper autour d'elle. Et la décision a été prise de créer un collège expérimental.
Il y a une idée un peu militante.
De réussite de tous les élèves, de ne pas laisser des élèves en échec, de faire quelque chose pour les élèves qui sont en échec. Ça a fédéré un certain nombre d'enseignants, militants ou non, et le projet a commencé de cette manière-là.
Et militants sur une base pédagogique, c'est-à-dire un courant pédagogique déterminé.
Oui, au départ, oui.
Mais sans que ce soit une école privée, c'est-à-dire on est sur la différence, mais on est fonctionnaire.
Mais ce qui est encore plus grave,
c'est toute ambiguïté. C'est-à-dire que l'institution, donc l'État, peut-être à travers votre médiation et à travers l'existence de l'article 34, a trouvé l'opportunité de faire rentrer dans le giron, entre guillemets, cette structure, ce qui serait un bien pour elle, puis un bien pour nous, parce que ça permettrait peut-être d'installer un dialogue qui semble peut-être délicat.
Est-ce qu'il y avait une administration propre à l'établissement? Est-ce qu'il y avait une demi-pension propre à l'établissement? Ils partageaient.
Par exemple, le CPE appartient à l'établissement Anne-Franck.
D'accord.
Donc, l'intendance aussi, je crois. La cantine, alors c'est un peu compliqué, non? Ils mangent à l'extérieur, assez loin. Et pour répondre à la question des enseignants, donc il y a les enseignants piliers, mais finalement, comme l'expérimentation n'est pas très carrée, mais il y a des enseignants qui sont partis. Et qui les recrutent, ce sont de jeunes contractuels qui trouvent là l'opportunité d'un poste et de s'intégrer aussi à une équipe, puisqu'ils ne pouvaient pas s'intégrer en allant à gauche et à droite, mais là, ils arrivent à créer leur emploi finalement.
Et excusez-moi, vous avez parlé d'un CPE.
Oui.
Quelle est sa place dans une structure de SNCG? Quelle est sa place dans l'emploi?
Alors, c'est une bonne question, puisque la CPE. Fait partie des personnes que nous n'avons pas rencontrées. Il n'a pas été.
Le filtre a été très important. Hein. Il y a un clivage important entre Neuronceray et Anne-Franck. C'est toute la difficulté de l'entrée sur le terrain, c'est-à-dire qu'on nous a accueillis à bras ouverts, en mettant les bras comme ça, bras ouverts. Voilà, donc on a vu certaines personnes et on nous a masqué aussi certaines personnes. Parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait des conflits.
Il y a des conflits, je crois que la CPE, justement, est partie là, c'est pas l'autre.
Par rapport à la thématique du séminaire, on est. Bon, tout le problème sémantique est. Peut-être l'utilisation galvaudée de la terminologie expérimentation. C'est-à-dire que le collège expérimental, il y en a qui existaient avant, c'est un peu comme l'école qui nous a été présentée ce matin. Là, on est sur. On grossit tellement le trait que pour moi, on n'est pas dans l'expérimentation article 34 telle que je la vis au quotidien et telle que j'essaie de la promouvoir auprès des établissements et aussi des écoles. Parce que c'est hors norme. Mais à travers la commande et votre travail en relation avec la MIVIP, le rectorat et vos travaux de recherche, le trait est tellement grossi que ça permet de mettre en exergue l'intérêt de l'expérimentation article 34 pour une structure telle que celle-là, intérêt qui a été compris, ça vous a été présenté ce matin par notre collègue, avec l'aboutissement d'une évaluation sous la forme d'un livre pour l'école dont j'ai perdu le... Vitruve. C'est vrai qu'il faudrait les amener à être peut-être dans la rédaction d'un projet d'établissement. Bon, j'en ai parlé hier, vraisemblablement dans un contrat d'objectif, parce que le contrat d'objectif, là, serait peut-être encore plus fort et derrière, décliner leur.
La première étape de la chose, c'est ce qu'on a su au bout d'un moment de la part de l'ONGIP, c'était d'arriver. Instaurer une relation qui permette de négocier la rédaction d'un projet en pointant certaines choses. Donc on voulait en gros avoir notre position intermédiaire, qu'on fasse tampon entre guillemets, de façon à pouvoir poser ces choses-là avec les gens. Donc, les dernières informations qu'on a eues, si je peux me permettre de les lire, c'est qu'ils sont du côté de l'établissement en train de monter un projet avec des formes d'appui locaux, notamment. Je pense à des gens qui se revendiquent de la pédagogie freinée ou autre, ils voudraient monter un système de cursus qui irait de la maternelle jusqu'à la terminale en passant par notamment l'autre établissement dont on n'a pas parlé là, mais qui est le lycée de Saint-Nazaire.
Voilà, parce que là, par contre, on devait étudier le lycée. On a été reçu, je suis allée à un rendez-vous. En fait, ils ont refusé l'étude.
Il faut expliquer pourquoi.
Parce qu'il y a énormément d'études qui ont été faites sur ce lycée. Donc ils ont estimé qu'il y avait déjà suffisamment ce qui est vrai. Eux, contrairement à Anne-Franck, ils faisaient beaucoup d'écrits, réfléchissent beaucoup à leur pratique. Donc ils ne voyaient pas.
Ils s'auto-évaluent pleinement.
Ça n'avait aucune plus-value pour eux.
Elle en a parlé tout à l'heure, Christine, je me suis découpée. Mmh. C'est-à-dire que ce qui était dit dans le contrat de départ, c'est que ça devait durer un an. Et justement, le litige était là, c'est que Saint-Nazaire, le lycée expérimental, disait nous, on veut un travail sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sérieux, mais il voulait un travail suivi sur 3 années pour voir ce que ça donnait. Et donc, ça n'a pas pu se négocier. Donc,
L'article 34, il est pleinement institutionnel.
On a complètement compris pourquoi ça ne pouvait pas se faire là-bas. Ça nous semblait normal parce que. Je crois que c'est pas même de la part de la MIVI, c'est pas du tout apprécié de la même façon. Il suffit de lire les rapports qui sont faits sur Saint-Nazaire et sur Anne-Franck. C'est pas du tout la même chose. Là, dans le cas de Saint-Nazaire, je pense que l'expérimentation est bien reçue. Ce qui a été fait, ce qui se met en place, est bien reçu. Donc voilà, on n'était pas dans le.
Parce que c'est bien formalisé.
On a quelque chose.
Le problème d'Anne-Franck, c'est que c'est pas formalisé. Est-ce que vous avez eu des retours quand même directs du collège Alphonse, là, sur vos conclusions?
c'est ce que j'ai lu tout
à l'heure. Oui, le mail.
Ah, je voyais que c'était que non, ça venait du.
Non, c'est justement une des personnes qui était le plus réfractaire et la plus inquiète de notre présence.
D'accord. Et quand vous dites que votre rapport se rappelle beaucoup du rapport d'inspection, ça veut dire qu'il y a eu un rapport d'inspection en amont, une inspection globale.
Alors, il y a eu un IPR et un chef d'établissement qui sont allés en visite au collège.
Dans une démarche de l'IPR.
Et finalement, sur certains points, on ne dit pas pareil. Mais
est-ce que vous l'aviez lu avant de commencer votre
recherche ? Non, on l'a fourni après.
C'est très bien comme ça, c'est en même temps embêtant parce qu'on a avancé un peu à la bouillette, on a découvert les enjeux et les tensions qu'il y avait au fur et à mesure. Mais c'est
aussi de la médiation et de la caution, j'ai l'impression, des fois.
Pourquoi ?
Est-ce que l'ami vif, enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. C'est clair qu'on le savait pratiquement depuis le début. On était, quand tu disais tout à l'heure, on était entre. Oui, l'établissement prochain, c'est clair qu'on était tampons dans cette histoire-là. Et quelle position on prend ? Parce qu'il y a plein d'enjeux de la part de nous, on est jeunes chercheurs, j'aime bien dire jeunes chercheurs. Mais c'est vrai qu'il y a un appui derrière nous. Donc nous, on fait un travail aussi relatif soit-il. Il y a des enjeux par rapport à la MIVIP, il y a des enjeux par rapport à ces établissements. Donc, il faut qu'on fasse attention aux pieds, sur ce qu'on fait. On savait pas trop où on évoluait. C'était tout l'intérêt du travail qu'on a eu à faire, je pense, plus que le travail de terrain dont on a parlé, c'était de réfléchir sur la posture du chercheur.
Moi, ce qui manque, ce qui me... Bon. L'attente que j'ai, c'est que la notion d'évaluation dans le cadre de l'expérimentation article 34, je le vois vraiment comme à terme du temps accordé, qui peut aller jusqu'à 5 ans, mais qui n'est pas forcément de 5 ans. Hein. Bon, on essaye d'être plutôt sur 2 ou 3 ans à titre d'essai. Normalement, il y a une validation de deux choses. Une, soit l'établissement peut continuer et il est libre, il n'expérimente plus, il est dans une démarche qui pour lui est normale. Soit on lui dit, et il se dit aussi, puisqu'il y a la part d'évaluation partagée, eh bien ça n'apporte pas de plus-value, ou ça ne correspond pas aux attentes, aux objectifs fixés, et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus continuer à travailler comme cela. Et ça, je suis pas sûr qu'ils accepteront d'être dans une démarche critique. Bon, tout à l'heure, je disais, mais sait-on quelle est l'atteinte au résultat au brevet, ou au CFG, ou la poursuite d'études pour des élèves ? Bon, moi, je reste convaincu que ce sont des indicateurs pertinents en termes de cursus. Ça se fait, sur plusieurs années, et il faut l'accepter. C'est-à-dire que, à l'aune des élèves entrants, parce que là, on a un particularisme fort en termes d'élèves arrivants, quand même. On n'est pas sur un collège avec une mixité, une hétérogénéité un petit peu habituelle. Hein.
Ça fonctionne de façon. Non, oui, effectivement, un des problèmes, c'est la pérennisation des expérimentations. Là, par exemple, suite à ce qui s'est passé là, ça crée un espace de discussion, qui peut entraîner un report d'une éventuelle, je veux dire de façon un peu brutale, d'une éventuelle sanction par rapport à l'expérimentation. Mais donc ça veut dire que ça entérine indirectement certaines choses, ça les installe dans un fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut sanctionner brutalement ou est-ce qu'il faut planifier en se disant que ça va évoluer dans le temps ?
Mais non, mais il faut fixer une date et dire jusqu'à cette date on évalue ensemble. Mais
dans la négociation,
l'expérimentation,
là, ça va reporter un petit peu.
Est-ce que c'est pas le droit à l'erreur, l'expérimentation ? Mais c'est une chance d'avoir le droit à l'erreur. Mais il faut l'accepter. C'est-à-dire que c'est tout chemin parcouru n'est pas un chemin de la réussite. Bon, et si eux, ils ont un a priori sur leur façon de travailler, bon, ça peut être une réussite. Et il faut le montrer. Et si c'était si cette réussite est actée, bon. Ils auront la liberté de poursuivre, je pense. Peut-être qu'ils ont une attente par rapport à ça, mais ils ont tellement crainte. Là, l'article 34 est ouvert par la loi. Donc pour moi, c'est une vraie opportunité. Si j'avais à leur présenter, je leur présenterais comme ça. Mais il faut qu'ils s'engagent.
Depuis 1999, ils ont quand même un projet d'établissement.
La personne qui, en 99, a créé ce groupe avec des professeurs militants, qu'est-ce qu'il est devenu ?
C'est une structure autonome.
Oui, c'est autonome.
Il y a une question entre les personnes. Elle est partie.
Ça a créé, ça a dû créer.
Voilà.
C'est un peu une épine dans laquelle.
Ça a dû être vécu comme un échec à un moment donné, sans
doute. Sans doute. Oui,
mais comme vous le disiez, est-ce qu'il faut laisser à l'expérimentation le temps et les moyens d'eux. Après, il faut voir effectivement.
Non, je pense qu'il faut fixer un temps.
Quelle dérive il y a par rapport à ça aussi. Il faut en alerter les gens. Je crois qu'ils se servent d'une situation, on l'a vu, par exemple, ne serait-ce que par rapport aux locaux, etc. Ils se servent d'une situation qui est. Qui crée des conditions de travail assez dures. Pour le retrouver comme argumentaire pour dire que l'expérimentation ne peut pas, etc. Enfin, je dis que c'est un peu à charge ce que je suis en train de dire là, mais il y a un certain nombre de conditions. On parlait du statut des enseignants, bon, voilà, ils peuvent mettre un certain nombre de choses en avant en disant bah oui, mais nous on ne peut pas faire un travail correct de telle ou telle façon parce qu'on n'a pas les moyens, etc. Enfin, des discours classiques. Mais en même temps, quelque part, je faut prendre ça avec de la distance, mais. Je suis bonheur aussi que ces inconvénients puissent les arranger. Hein.
Oui, moi aussi.
Voilà. Donc, comment est-ce qu'on évolue par rapport à ça? Comment on se positionne pour essayer de faire avancer un petit peu le débat? Donc, je crois que là, c'était pas trop mal parti dans le sens où s'ils acceptent de faire un projet, moi je crois que dans ce sens-là, ils vivent bien vu la chose, s'ils acceptent de faire un projet, il y aura du coup des critères, des éléments qui permettront d'avoir un suivi. Parce que là, on peut pas. On ne peut pas suivre un travail, on n'a pas de référentiel, on n'a rien. Enfin, je dis on, ce n'est pas spécial, c'est pas nous, les chercheurs, mais personne n'a de...
Les deux parties n'ont pas. Les deux parties n'ont pas. Ouais, c'est aussi l'objet de l'expérimentation.
On peut toujours rester dans un flou artistique, se balader à l'intérieur de cet espace en disant, non, ça on ne peut pas faire, ou ça... alors que si on a un projet, si on a des référentiels, si on a quelque chose, là il peut y avoir discussion, il peut y avoir échange, et donc d'où l'idée d'arriver à raccorder à minima les morceaux de façon à ce que des choses soient posées sur lesquelles on puisse travailler après. Quoi. Donc en ce sens-là, moi, je pense que c'était pas mal, parce que sinon c'était quelque chose qui courait à l'échec. Pourquoi pas, mais...
Il n'y a aucun rapprochement possible entre les deux entités qui ont l'air si proches, puisqu'elles partagent une cour.
Le Ronceret et le... Oh, on nous a décrit des batailles mémorables dans la cour entre les élèves. Ça tient du... Je ne sais plus comment il s'appelle ce film, là.
La guerre des boutons.
Ouais, c'est violent, hein, avec 80 à 100 personnes qui s'est tapé dessus dans la cour. Enfin, il y a vraiment un problème fort sur l'utilisation des bâtiments. Il y a une rupture forte entre les deux. Au niveau de l'administration, au niveau de l'équipe enseignante, au niveau des élèves, il y a des cultures, il y a des choses qui sont différentes, ce sont des clivages permanents.
Le collège voisin n'a pas perdu d'élèves.
Non,
au niveau carte scolaire, il n'y a pas de collège.
Parce qu'en fait, il a été un pont qui a été installé sur ce site parce que le collège Le Ronceret devait fermer. C'est ce qu'on nous a expliqué. Et finalement, le collège Monseret, l'équipe a essayé de dynamiser un petit peu l'établissement. Et ils ont réussi à maintenir la structure. Donc finalement, ils se retrouvent en cohabitation parce que les deux collèges sont maintenus. Et puis alors, c'est très difficile parce que, par exemple, le prof de technologie partage la salle avec l'autre prof de technologie. Donc comme... Là, on a affaire à du matériel. Si on ne travaille pas un petit peu en équipe, ça génère des conflits parce que c'est toujours l'autre qui a cassé le matériel. C'est pareil pour le PS.
Moi, je crois que l'institution ne prend pas de responsabilité dans cette histoire.
Elle n'assume pas,
oui.
Pour avoir des choses là-dessus, il y a quand même pas mal de collèges expérimentaux qui sont montés en France et un des critères primordiaux pour... un début de réussite, c'est que les locaux soient propres à la structure. Venir greffer une structure expérimentale sur un collège existant déjà, il y a eu un taux d'échec.
Parce que l'idée d'expérimenter dans la loi 2005, moi je fais vraiment le pendant, je vais peut-être être redondant sur mon discours, mais avec le contrat d'objectif, c'est-à-dire que dans un cas, on contractualise et on est sur des démarches d'utilisation de terminologie, performance, indicateurs, objectifs, bon, qui sont... à installer, mais à côté de ça, on donne la marge d'autonomie, on peut sortir des grilles, on peut être dans des modes de fonctionnement qui installent vraiment l'autonomie de l'établissement. Donc on a vocation à travers l'expérimentation à renforcer son autonomie et à réagir au plus vite au changement qu'un établissement peut subir. Peut-être qu'il devrait aller vers des structures de type école de la deuxième chance, dire, et qui, je sais pas, il y a peut-être des pistes à leur proposer, mais vraisemblablement se séparant. Là, on est sur, c'est ubuesque hein, ce qu'on entend.
Deuxième chance, ça y est, c'est assez prise. C'est parti, c'est le projet est en route, puis c'est un projet très politique. Et la deuxième chance, c'est par une démarche municipale. Enfin bon, mais là,
oui,
c'est.
Oui, ça pouvait pas. Enfin, ça peut pas fonctionner comme ça.
Disons qu'ils n'avaient pas les. Non. Pas de projet explicite, pas de locaux, de structure. On n'entend pas parler du principal. Enfin,
mais il n'y en a pas.
À mon avis, le principal de Ronceret doit avoir quelque chose à voir là-dedans, sûrement.
Ça va être l'ordonnateur,
voilà. Le gestionnaire de Ronceret doit être aussi être partie prenante. Hein.
Mais c'est étrange.
On sent un sort pourrissement de situation pour avoir bossé dans la Sarthe. On sent que l'institution laisse pourrir tranquillement les choses sans avoir à prendre une décision radicale qui ne sera pas forcément populaire d'arrêter ça.
Mais qui serait tout à fait possible puisque l'établissement support serait là. Il faudrait juste que Anne-Franck soit rattachée à l'autre établissement.
Et, déjà,
et puis qu'il y ait une politique de mise en commun.
Il est rattaché.
Il est d'un point de vue administratif.
Voilà.
En plus, il est.
La logique, il n'y a aucun travail avec notre équipe.
Par contre, qu'on arrête de présenter ce projet comme une expérimentation.
Bah, ça risque de
desservir
ça.
Pour, oui, dire. Moi, ça me tient à cœur de développer l'expérimentation. Le collège expérimental dont on parle, là, bon, c'est un collège, c'est une structure expérimentale, mais qui est un milieu des voies de découverte que l'expérimentation peut offrir, soit dans la classe, hein, parce que ça peut être simplement dans la classe pour une discipline, soit pour un collège.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je trouve quand même qu'ils font des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc il faut déjà un certain courage pour sortir de l'ordinaire. Par contre, il faudrait qu'ils donnent un sens à leur enseignement en créant un référentiel sur les 4 années. Hein.
Oui, mais il faudrait aussi qu'ils soient institutionnels. Or, ils ne le veulent pas. C'est-à-dire que si la situation est en train de pourrir, ou bien bon, on sent bien les difficultés avec l'institution, avec l'administration, c'est parce que bon, il y a un pilotage partagé qui est impossible. C'est-à-dire que j'imagine qu'ils ont du mal avec l'inspection, ils ont du mal avec la démarche de projet, ils ont du mal avec...
Oui, mais c'est normal, parce qu'on a laissé pourrir une situation. Mais moi, je pense que si quelqu'un prenait les choses en main, ça pourrait changer rapidement.
Alors moi, pour aller dans l'autre sens...
Ça, c'est très positif, il faut aller vers ça.
Effectivement, c'est plus un collège expérimentateur, c'est un collège marginal.
Oui,
c'est marginalisé. Et là où vous êtes un petit peu pris en otage, je me demande, en gros, votre légitimité, c'est le fait de faire une analyse scientifique, et apparemment, c'est bien entendu de l'intérieur comme de l'institution, hein, par les acteurs. À partir de cet audit, de cet état des lieux, en quoi c'est véritablement un outil de prise de décision pour une démarche de changement? Qu'est-ce qu'on va proposer institutionnellement entre, justement, l'académie et ce collège, les acteurs du collège, pour qu'on passe à une démarche de changement, à la conduite d'un projet. Qu'est-ce qui, institutionnellement, va pouvoir être mis en place là? Et là, votre médiation, du coup, sera aboutie. Si véritablement, il y a un support institutionnel pour conduire ça. Et là, moi, c'est la question que je me pose. Je me dis,
l'institutionnalisation des expérimentations, oui. De ne pas rester dans cette...
Il y a un prérequis, c'est l'institutionnalisation. Il faut qu'ils mettent il faut qu'ils rentrent dans les clous d'une façon ou d'une autre. L'idée semble être avec le collège voisin, quand même.
Oui, mais enfin, je veux dire, comment à partir, si vous voulez, quand vous dites ça, on a l'impression que là, je comprends, c'est la solution, ça peut être une solution, mais elle va venir de l'extérieur. Là, je pense que les acteurs concernés sont prêts, enfin pourraient être dit prêts à une démarche de changement. Mais
comment
on va les accompagner institutionnellement, là? Moi, je pense qu'il n'y a pas de structure pour ça.
Non, mais le cadre de l'expérimentation s'y prête. C'est-à-dire que si on doit acter ou faire acter, bon, je vais être dans un fonctionnement tel que celui que je pratique, moi, si on doit faire acter par le recteur d'académie une autorisation de fonctionnement, d'accord, dans le cadre de l'article 34, il faut qu'il y ait, ce qu'on nous a présenté dans certains ateliers, une fiche projet, ou bien... ce qui a été présenté par notre collègue, c'est bon, ça me reviendra, c'était le cahier des charges. Bon. Mais ce cahier des charges, forcément, c'est une partie d'une réponse à une attente. Bon, les attentes, on les comprend, on les connaît, là. Hein, il y a des attentes d'adultes, il y a des attentes d'élèves. Donc, on voit ce qu'ils veulent faire, sauf que la façon dont ils l'organisent, le contexte dans lequel ça se déroule n'est pas vraiment optimisé. Bon, donc, grâce à ce constat-là, ils doivent aussi faire eux-mêmes un audit partagé, c'est-à-dire que quels sont leurs atouts, quels sont leurs inconvénients, partager la salle de techno, être en guerre avec les collègues voisins, je veux dire, socialement, sociologiquement, c'est pas un idéal d'éducation quand même. Hein. Bon, pour des adultes qui sont proches, c'est-à-dire que quand je dis CUBESC, on est sur des paradoxes éducatifs là. Alors peut-être que eux-mêmes pourraient s'approprier ce vers quoi ils doivent aller dans le cadre de l'expérimentation. Et si ça c'est accepté et validé, la validation entraîne un pendant dont on parle depuis deux jours, qui est l'auto-évaluation et à terme l'évaluation externe, donc partagée, pour entériner ou non un mode de fonctionnement.
Oui, mais à un moment donné, il faut aussi un engagement sur une auto-évaluation des acteurs.
Voilà,
mais
ça
c'est important.
Ça, c'est le cahier des charges.
C'est le cahier des charges, mais il faut que, dans un cahier des charges, il y a un volant moyen. À un moment donné, il va falloir que l'institution aussi se donne les moyens au regard d'un constat partagé, d'un projet.
Oui. Alors.
Parce que rien que de dire on ne partage plus la salle de techno, ça veut dire qu'il faut louer un autre.
Quand je parle du contrat d'objectif et on a parlé du contrat moral, bon, moi la chose est simple, hein, c'est l'État, et suivant ses prérogatives, on le voit avec l'ambition réussite, on voit avec l'éducation prioritaire, on va le voir à terme avec les cartes de langue, etc. Bon, tous les établissements ont des DAG plus ou moins communes, mais avec une marge de variation qui est connue quand même, qui peut être politique au niveau des académies. Bon, ça c'est quand même l'État qui le fixe. C'est donné. Mais le contrat, il est là. C'est-à-dire que pendant 3 ans ou pendant 5 ans, vous aurez encore les moyens d'avoir tant de postes. D'ailleurs, peut-être que ces postes sont affectés en fait au collège voisin. Hein. Peut-être qu'eux, ils travaillent sur la DAG des autres.
Hein. Bon. Est-ce que vous avez des élèves et de personnel?
Une enseignante,
c'est
une quinzaine, je sais pas.
C'est une petite école.
Ça fait penser, nous quand on est arrivé là, et moi pour avoir travaillé à d'autres moments dans ce genre de secteur, ça m'a plus fait penser à un fonctionnement dans certains locaux, dans le socioculturel, que dans la vieille école. Ça se veut pas péjoratif.
Hein. Ouais,
ces AGECO avec les élèves qui rentrent, qui sortent, la brioche sur la table avec le café, les profs, les élèves en même temps. Enfin, il y a un aspect, on a insisté sur la socialisation, etc. On n'est pas dans un. Vous parliez des moyens, enfin, du nombre d'élèves et des moyens, etc. On a plus l'impression d'avoir affaire à un collectif du type animateur ou éducateur. Enfin, c'est pas une critique, mais par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs. Ça fait penser à ça, quand même, dans le mode de fonctionnement.
Mais c'est normal, c'est à cause du public qu'ils en fassent d'eux. C'est pour ça que je disais à un moment donné que c'est pas négatif ce qu'ils font. Par contre, il n'y a pas de sens à ce qu'ils font. Il faudrait donner un sens et puis on les intégrer dans la structure à côté, puisque là, ils sont vraiment marginalisés. En plus, les AGECO, c'est moche par rapport à l'autre établissement. Et ils partagent une cour, ils sont implantés dans une cour qui ne leur appartient pas.
La question que je me pose derrière, c'est quel est l'intérêt au niveau d'institution et quel est l'intérêt au niveau de ces groupes d'acteurs, mais plutôt au niveau du groupe d'acteurs ici, de rester dans cette marge.
C'est simple. Et moi, je pense qu'au départ, il y avait ça, c'est-à-dire d'évacuer des autres établissements, des enfants à comportement difficile, qui n'avait pas de problème d'apprentissage, parce que normalement c'était le profil de tout ça. J'en ai accueilli moi par la suite des enfants qui étaient dans ce collège-là, qui revenaient dans un collège normal. C'était impossible. On ne pouvait plus se remettre dans un établissement avec des règles. Mais au moins, ça permettait aux autres établissements de ne pas les avoir et de souffler, comme les classes relais.
C'est pour ça que j'ai utilisé la terminologie unité d'intégration tout à l'heure.
Ça fait penser au fonctionnement des classes relais.
Tout à fait.
Voilà. Sauf que c'est le travail de socialisation, l'organisation.
Mais en fait, ils étaient, enfin, l'objectif n'était pas facile à atteindre.
Sauf que dans les classes relais, le personnel, donc les enseignants, ne refusent pas l'institution.
Non, c'est un dispositif là qui n'est même pas expérimental. Qui est
oui, d'accord.
Parce qu'il y a aussi ce subjectif qui refuse, oui, c'est l'institution, c'est.
Mais moi je pense que ça s'est créé, progressivement parce qu'il n'y a plus personne qui est à la tête, donc finalement il y a des habitudes qui se sont installées, ce sont quand même des personnalités différentes qui essayent de fonctionner ensemble, et c'est normal qu'à un moment donné elles refusent toute autorité puisqu'il n'y en a plus depuis un moment.
Et par exemple à Saint-Nazaire, on a, enfin, je ne sais pas, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a une co-gestion, alors que là on a l'impression qu'il n'y a pas de gestion. Il n'y a même pas de co.
Oui, il n'y a pas de projet commun, de toute façon j'ai l'impression que chacun a son propre projet et mène son propre projet plus que un projet collectif.
Ah, nous attendons.